Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour, monsieur le touriste. Voulez-vous que je vous prenne en photo devant la tour Eiffel?
Oh yes.
Mais je ne parle pas anglais et je ne connais qu'un seul mot, sir. Alors mettez-vous là et pour que la photo soit belle, reset, sir. Ce photographe ne connaissait pas le célèbre Cheese.
Auditeur, auditrice de Radio Libertaire, bonjour. Après le... Bonjour Elsa.
Bonjour papa. Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs.
Après le Tarzan de M. Gérard Durand, notre ami que nous remplaçons depuis le mois de janvier dans cette émission premier jeudi de chaque mois, voilà. Eh bien, nous allons commencer cette émission avec vraiment beaucoup de choses très percutantes. Moi-même, je vous lirai un article que Suzanne m'a envoyé du Cairn.info comment fabrique-t-on aujourd'hui des policiers robotisés ? Ce sera en deux parties. La deuxième partie, ce sera ensuite vers le cinquième jeudi, donc vers le 28 ou 29 de ce mois-ci, avec Suzanne qui fait son émission tous les trois mois. Voilà. Elsa aussi aurait la suite des essais nucléaires que la France a fait en Algérie et ses conséquences.
Oui, tout ça. suite et fin, plus exactement, de ce long article.
Voilà. Et bien sûr, pour soutenir l'Union pacifiste est la section française de l'International des résistants à la guerre. Vous pouvez nous écrire à la boîte postale 40 196 75 624 Paris CEDEX 13. Nous avons aussi une messagerie au 01 45 86 08 75. Je répète, 01 45 86 08 75. Et nous avons deux adresses internet. union.pacifiste@orange.fr ou www.unionpacifiste.org. Voilà. Et si vous voulez adhérer à Union Pacifiste et recevoir le journal, l'adhésion coûte 25 euros, le journal 30, ce qui nous fait 55 euros. Donc, en ce moment, nous avons vraiment besoin de beaucoup d'adhésions et d'abonnements, parce que vu que nous avons des problèmes de trésorerie, mais tous les animateurs qui sont tous des gens non rémunérés, mais qui ont la foi dans l'Union Pacifiste, on espère pouvoir continuer à diffuser notre organe papier. Voilà. Donc, je vais laisser Elsa prendre la parole pour les infos que nous avons dites.
Donc, il s'agit de la situation environnementale et sanitaire au regard du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le 7 juillet 2017, la Conférence des Nations Unies de négociation d'un instrument juridique contraignant pour interdire les armes nucléaires, adoptée à une large majorité, soit 122 États pour, une voix contre les Pays-Bas, une abstention venant de Singapour, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, TIAN. T-I-A-N. Le TIAN, qui s'appuie sur le droit international humanitaire, DIH, et les droits de l'homme, va créer, une fois en vigueur, une nouvelle norme internationale. Il intègre et renforce les normes établies par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, les traités régionaux portant sur la création de zones exemptes d'armes nucléaires, ainsi que le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, TICE. Les normes de vérification sont égales ou supérieures à celles inscrites dans le TNP et encadrées par l'AIEA. Le terme « futur instrument supplémentaire » est inscrit dans l'article 3, alinéa 1er, portant sur les garanties. Cela indique ainsi la possibilité de créer à l'avenir une norme plus stricte que le protocole additionnel, norme à ce jour la plus exigeante actuellement en vigueur. Ce traité ouvre ainsi la porte au désarmement nucléaire pour renforcer la non-prolifération nucléaire et la sécurité internationale. Dans son préambule, le TIAN mentionne, alinéa 6, que les États parties sont conscients des souffrances et des dommages inacceptables subis par les victimes de l'emploi d'armes nucléaires, Ibakusha, et par les personnes touchées par les essais d'armes nucléaires. En plus de témoigner d'une volonté de rendre hommage à ces populations, cette mention constitue une reconnaissance de leurs souffrances. L'article 1er interdit la mise au point, la production, la possession, l'emploi et la menace d'emploi d'armes nucléaires, ainsi que l'assistance ou l'encouragement à des activités liées au nucléaire militaire. En outre, et c'est pour cela qu'il est classé dans la catégorie des traités dits de désarmement humanitaire, il comporte des obligations positives directement issues des conclusions des trois conférences humanitaires sur les armes nucléaires, Oslo en 2013, Nayarit et Vienne en 2014, et des conventions sur l'interdiction des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions entrées respectivement en vigueur en 1999 et en 2010. Ces obligations se trouvent dans les articles 6 et 7 qui stipulent que chaque État partie en mesure de le faire doit fournir une assistance aux victimes de l'utilisation ou de la mise à l'essai d'armes nucléaires et œuvrer à l'assainissement de l'environnement dans les zones contaminées par des détonations d'armes nucléaires. Ils autorisent également les États parties à solliciter et à recevoir une assistance d'autres États parties. Il est ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2017. Au 29 juillet 2020, le TIAN compte 82 signataires et 40 États ont déposé leurs instruments de ratification auprès de l'ONU. Ce traité entrera en vigueur 90 jours après la 5e ratification selon l'article 15. La prise de conscience internationale de la nécessité de protéger notre environnement est à l'origine d'une nouvelle notion juridique, celle du droit des générations futures. Pour les juristes, intégrer les générations futures dans le droit, c'est réaliser une révolution copernicienne, selon le professeur de droit international de l'environnement, Alexandre Kiss. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, pierre angulaire du régime de non-prolifération nucléaire, se limite, selon le premier alinéa de son préambule, aux dévastations qu'une guerre nucléaire ferait subir à l'humanité entière, soit à un impact immédiat sur la vie. Or, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires réalise une première juridique pour un traité portant sur une arme de destruction massive en intégrant cette nouvelle notion qui souhaite protéger une population future. Cela s'inscrit dans une logique à la fois intellectuelle et juridique, comme le souligne la juriste Émilie Gaillard dans son livre « La question des générations futures ». Générations futures et droit privé, vers un droit des générations futures. Le droit des générations futures est un droit en irrépressible ascension. Il est possible de l'identifier comme une force inscrite dans toute dynamique de protection de l'environnement ou encore de la condition humaine future. À tous les stades de leur production ou leur utilisation, les armes nucléaires produisent des effets à long terme. Lors de leur production et lors des essais, elles créent des déchets radioactifs qu'il faut traiter et entreposer à très long terme. Les zones contaminées ne sont plus propices aux activités humaines. Lors de leur utilisation, de très nombreuses personnes survivantes sont confrontées à des problèmes de santé dus aux radiations et la contamination des zones bombardées ou utilisées comme sites d'essais nucléaires reste et restera souvent forte durant des milliers d'années, comme le montrent les nombreux cas des Ibakusha et des populations ayant participé aux essais nucléaires. Enfin, les générations nées après la production, les essais et l'utilisation de ces armes peuvent aussi se voir transmettre des maladies radio-induites par un lien transgénérationnel ou en vivant sur des zones non décontaminées. Source tirée du livre de Bruno Marillon, Barillot, nos enfants marchent sur du plutonium. Le Tian est un texte juridique qui se situe dans la lignée d'une série de traités dits de désarmement humanitaire, comme la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles 1999 et la Convention sur les armes à sous-munitions 2010. Visant à contrôler et à interdire des catégories entières d'armes. En raison de l'impact dans le temps des effets de ces armes et de la prise de conscience de la nécessaire protection des générations futures, il était logique que le TIAN introduise des considérations juridiques à ce sujet. Le terme anglais « future generation », traduit en français par « génération future », apparaît à différentes reprises dans le préambule et dans les articles du traité d'interdiction sur les armes nucléaires de façon indirecte. L'alinéa 4 contient la première référence directe au concept de Generation Future. Gardant à l'esprit que les effets catastrophiques des armes nucléaires ont des répercussions profondes sur la santé des générations actuelles et futures. Il faut noter également une prise en compte indirecte dans cet alinéa de la dimension du genre. Ce qui est une première dans un traité portant sur les armes de destruction massive. Les effets des armes nucléaires sont plus importants sur les femmes et les filles. On constate ainsi une volonté de préserver leur santé et leur capacité à donner la vie à de nouvelles générations. L'alinéa 23 est une troisième référence directe. Constatant l'importance de l'éducation en matière de paix et de désarmement sous tous leurs aspects et de la sensibilité aux risques et aux effets des armes nucléaires pour les générations actuelles et futures, est déterminée à diffuser les normes et principes inscrits dans le présent traité. La notion de génération future est ainsi directement liée aux articles 6 et 7 qui portent sur les obligations positives. Il y a bien eu une volonté de la part des rédacteurs de garantir que les populations actuelles et à venir puissent vivre à nouveau dans un environnement sain sans souffrir des pollutions radioactives présentes sur les zones d'essais nucléaires à travers le monde. Alors, les obligations positives. L'article 6, assistance aux victimes et remise en état de l'environnement du TIAN, est constitué de trois paragraphes. Il demande que chaque État partie fournisse de manière suffisante aux personnes relevant de sa juridiction qui sont touchées par l'utilisation ou la mise à l'essai d'armes nucléaires, conformément au droit international humanitaire et au droit international des droits de l'homme applicable, une assistance prenant en considération l'âge et le sexe, sans discrimination, y compris des soins médicaux, une réadaptation et un soutien psychologique, ainsi que d'insertion sociale et économique. La définition de victime est donc très large, comprenant autant des problématiques de santé physique, maladies radio-induites par exemple, et psychologiques, pour les femmes devenues infertiles ou ayant subi de fausses couches par exemple, que des problématiques économiques, l'eau pouvant être polluée et impropre à l'agriculture. Le second paragraphe stipule que l'État parti prend les mesures nécessaires et appropriées en vue de la remise en état de l'environnement des zones sous sa juridiction contaminée par suite d'activités liées à la mise à l'essai ou à l'utilisation d'armes nucléaires, ainsi que contaminées. Il y a une reconnaissance indirecte de l'altération de l'environnement après les essais ou l'utilisation d'armes nucléaires, puisque le législateur fait mention de mesures nécessaires. De plus, notons l'absence de mention de délai, ce qui souligne le caractère imprescriptible de ces obligations de nettoyage qui s'inscrivent dans le long terme. L'article 7, coopération et assistance internationale, donne le droit aux États parties de demander et de recevoir l'assistance d'autres États parties au traité, et tous les États parties qui sont en mesure de le faire ont pour mandat d'aider les autres à remplir leurs obligations positives. En effet, le paragraphe 3 mentionne que chaque État partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance technique, matérielle et financière aux États parties touchés par l'utilisation ou la mise à l'essai d'armes nucléaires afin de contribuer à la mise en œuvre du présent traité. Cette assistance, tant financière que technique, peut prendre la forme de mesures de réhabilitation de l'environnement ou d'aide aux personnes, telles que stipulées au paragraphe 4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournit une assistance aux victimes de l'utilisation ou de la mise à l'essai d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires. Notons bien que ces deux paragraphes emploient le terme de « en mesure de le faire » dans l'objectif d'encourager les États parties à mettre en œuvre de telles mesures. Mais il s'agit aussi de donner une chance à ces processus de débuter rapidement. En effet, si l'assistance ne devait venir que d'États dotés de l'arme nucléaire, dans le cas qui nous intéresse la France, et déjà partie au Tian, l'attente pourrait être très longue. Cela ne ferait alors qu'accroître les souffrances des populations et les dangers auxquels elles font face. L'assistance peut aussi être fournie par diverses organisations, dont l'ONU ou le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, qui sont listées dans le paragraphe 5. Ce modèle d'action fonctionne déjà très bien dans de nombreux domaines, santé, protection des civils, etc., et peut certainement être rapide à mettre en œuvre. Néanmoins, les auteurs du Tian tenaient à nommer les responsables de ces situations humanitaires et environnementales. C'est pourquoi le paragraphe 7 stipule qu'il incombe à l'État parti qui a utilisé ou mis à l'essai des armes nucléaires ou tout autre dispositif explosif nucléaire de fournir une assistance suffisante aux États parties touchés aux fins d'assistance aux victimes et de remise en état de l'environnement. Bien sûr, il a été précisé que cet État parti, une puissance nucléaire, donc, n'est pas absous de tout autre devoir ou obligation que pourrait lui imposer le droit international. Le Tian reconnaît le principe du pollueur-payeur. Alors, le principe pollueur-payeur a été consacré pour la première fois comme principe général du droit international de l'environnement par la déclaration de Rio en 1992 sur le développement et l'environnement à travers le principe numéro 16. C'est la première fois que les puissances nucléaires sont montrées du doigt dans un traité sur les armes nucléaires et que d'autre part, la communauté internationale leur demande de réparer leurs actions. Alors voyons l'application des articles 6 et 7 en Algérie. Alors, l'Algérie a participé aux négociations du Tian, contrairement à la France qui n'a cessé de le dénoncer dès son adoption. Dans la déclaration de presse des représentants permanents des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France auprès des Nations Unies à la suite de l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires, New York, le 7 juillet 2017.
Ouvert à la signature le 20 septembre 2017, l'Algérie a fait partie des premiers États qui ont décidé de signer ce texte et elle a débuté le processus de ratification. Il n'y a pas de doute sur la volonté algérienne de ratifier ce texte au vu des nombreuses annonces diplomatiques. Par exemple, notamment le discours de M. Mohamed Bessédik, ambassadeur d'Algérie, débat général, première commission de l'ONU, 74e session de l'Assemblée nationale, le 11 octobre 2019. Une fois devenu État parti et une fois le traité en vigueur, l'Algérie devra donc mettre en œuvre ses obligations, notamment celles liées aux articles 6 et 7. En vertu de l'article 6, c'est bien à l'État parti touché, ici l'Algérie, qu'il incombe en premier de fournir une assistance aux victimes, ou tout le moins de débuter véritablement un processus d'action auprès des victimes. Comme il est indiqué dans les recommandations que je vous lirai plus tard, les mesures mises en œuvre peuvent être tant de nature sanitaire qu'économique. En effet, si des terres ou des palmarais ont bien été contaminées et que cette contamination empêche toute production agricole, car potentiellement dangereuse pour la santé humaine comme animale, cela risque de mettre en danger les moyens de subsistance de nombreuses familles. Alger peut demander une assistance internationale, notamment auprès de la Fédération internationale de la Société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de la Société internationale du Croissant-Rouge. Ces organisations déjà présentes sur ce territoire pourraient ainsi rapidement protocoliser les témoignages et produire un premier bilan sanitaire. Pour sa part, la France ne veut pas signer et ratifier le TIAN. Mais cela l'empêche-t-elle d'apporter une assistance humanitaire et technique à l'Algérie ? Non. En effet, comme le montrent certaines actions de coopération internationale entre des États à l'histoire troublée, des gestes positifs pour les populations et l'environnement peuvent être posés. De plus, les relations entre ces deux États sont nombreuses, notamment sur le plan de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ainsi, le commissariat à l'énergie atomique algérien, COMENA, et le commissariat à l'énergie atomique, CEA, mène différents programmes en commun, preuve d'une confiance et d'une connaissance mutuelle des acteurs. Un dialogue pourrait s'initier sur le sujet des déchets nucléaires actuellement présents au Sahara. D'autant qu'un début de dialogue a déjà eu lieu, notamment suite à la visite du président Nicolas Sarkozy en Algérie en décembre 2007, avec la mise en place d'un comité conjoint franco-algérien. Celui-ci a été chargé de l'expertise civile sur les sites pollués et de rassembler toutes les indications et les études afin de diagnostiquer la radioactivité des sites pollués et de déterminer les risques pour les habitants et l'environnement. Apparemment, cette commission s'est bien réunie, notamment en 2009, selon des propos du ministre des Affaires étrangères algérien tenu en 2010. Toutefois, elle a œuvré dans le plus grand secret. Aucun rapport n'a été rendu public avant qu'il soit mis fin à ses travaux. C'est pas étonnant, ceci dit. La reprise du dialogue pourrait très bien s'inscrire dans le cadre du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, CIHN, créé à la suite de la déclaration d'Alger de 2012. Selon les communiqués conjoints franco-algériens de 2012, 2014 et de 2017, il a été question, lors des sessions du CIHN, de travaux en lien avec les essais nucléaires. Il fut ainsi décidé, le 11 décembre 2017, de la mise en place d'un dialogue spécifique dans les meilleurs délais pour poursuivre les initiatives du groupe de travail mixte sur l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires français au Sahara ou leur ayant droit, lequel à ce jour n'aurait tenu qu'une seule réunion le 3 février 2016. Alors, une petite pause musicale est nécessaire pour encaisser ces informations.
À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin. voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton, ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. Un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu. Un monde neuf ou sur un corps qui va tomber, grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau, en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont volée, à tous les gras, à tous les cocus qui vont tripotent dans la vie et comptent leurs écus. À tout cela, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs pachous. Des marques de honte et de boue.
Eh bien, c'était une chanson de Serge Girouillot. Qui, c'était à l'époque de l'an 2000, elle fait deux soirées au Triton. Donc là, c'est le premier CD de ce spectacle. Et on espère que bientôt, il pourra en refaire un autre. Mais vu que les conjonctions actuelles financières sont un peu difficiles et qu'il y a toujours des difficultés à remplir les salles, nous, on lui dit « lâche pas la patate, Serge ».
En effet. On a besoin de lui pour et tout comme tous les artistes pacifistes. Alors, je vais aborder le cas d'assistance aux victimes et de remise en état de l'environnement entre États. Il existe plusieurs exemples de coopération interétatique, de mise en interétatique. De mise en œuvre de programmes d'assistance, alors même que ces États ont eu une histoire très troublée. Tout comme il y a au moins un exemple de participation d'un État, en l'occurrence les États-Unis, à un programme de réhabilitation de l'environnement, alors même que sur le plan juridique, celui-ci n'est pas soumis à des obligations légales. Ces cas peuvent constituer un modèle à suivre pour la relation entre la France et l'Algérie. Alors, États-Unis, Vietnam sont deux États qui se sont férocement affrontés. Les États-Unis utilisèrent entre 1962 et 1971 des agents chimiques, plus de 80 millions de litres, très puissants, dans le but intentionnel de détruire les forêts pour repérer les lieux et pistes de transport des soldats du Front National de Libération du Sud-Vietnam. Près de 2 millions d'hectares ont ainsi été brûlés, provoquant une vaste catastrophe environnementale et des conséquences humanitaires, brûlures importantes. Dans ces deux États, une culture de haine de l'autre s'est largement installée avant, avec le temps, l'ouverture d'une ère nouvelle. Si Washington n'a jamais reconnu une responsabilité directe de ces contaminations, malgré des demandes claires de la part de Hanoï, des actions de décontamination ont été entreprises depuis 2011, comme par exemple le projet d'assainissement de l'aéroport de Da Nang. En 2019,
l'Agence américaine pour le développement international, USAID, a débuté un programme d'une durée de 10 ans, avec un investissement de 183 millions de dollars pour nettoyer l'aéroport de Bien Hoa, qui est considéré comme le site le plus pollué du pays. De plus, une lettre d'intention a été signée pour que les agences gouvernementales des deux États travaillent ensemble pour aider les ressortissants vietnamiens vivants qui ont un handicap dû à l'exposition de cet agent chimique. Alors, Union soviétique, Russie et Kazakhstan. 456 essais nucléaires atmosphériques, 340 et souterrains 116 ont été réalisés sur le site de Semipalatinsk au Kazakhstan. Dès l'indépendance du pays en 1991, son président Nazarbayev décida de fermer ce site d'essai et d'engager un programme d'aide aux populations vivant dans les zones contaminées. Même si la Russie a longtemps été réticente à introduire un programme d'aide médicale directe à l'intention des populations kazakhes, une assistance s'est mise en place avec le programme international Cooperative Threat Reduction. Cet accord conclu entre les États-Unis, le Kazakhstan et la Russie sécurise du matériel nucléaire pour éviter une prolifération de matières radioactives susceptibles de servir à la production d'armes nucléaires ou de bombes sales. Le Kazakhstan a également décidé de créer un centre de recherche chargé d'étudier et de traiter l'héritage sanitaire et environnemental de la contamination, reconnaissant ainsi son obligation de protéger ses citoyens. Alors, le nom du centre, c'est Centre nucléaire national de la République du Kazakhstan, créé le 21 janvier 1993, a comme principal domaine d'activité le soutien au régime de non-prolifération et la sécurité environnementale.
Bonjour.
Oui, en effet. Les États-Unis et leur politique d'aide aux opérations de déminage. Alors que les États-Unis n'ont pas ratifié les conventions sur l'interdiction des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions, ce pays est l'un des principaux donateurs, ayant débuté avec 113,5 millions de dollars en 2013 pour atteindre progressivement une contribution de 309 millions de dollars en 2017 pour assurer des opérations de déminage à travers le monde. Enfin, il faut relever une coopération secrète initiée en 2012 entre la France et l'Algérie au sujet des conséquences des essais d'armes chimiques françaises dans le Sahara. Cela démontre qu'aborder les sujets des déchets enfouis dans le Sahara peut être possible. Alors, France-Algérie. Selon les accords d'Évian du 19 mars 1962, la France est autorisée à utiliser jusqu'en 1967 les sites du Sahara. Donc, In Acker, Reagan et Colomb Béchard Amaguir pour une durée de 5 ans. En réalité, la base secrète B2 Namous, dans la région de Beni Ounif, servant à des expérimentations pour des armes chimiques et bactériologiques, sera conservée par la France jusqu'en 1978 avec l'accord des autorités algériennes. L'existence de cette base sera rendue publique seulement en 1997. C'est cité du livre de Vincent Jauvert, nom de code B2 Nabous, quand la France testait des armes chimiques en Algérie. Les 19 et 20 décembre 2012, le président Hollande rencontre le président Bouteflika pour ouvrir une nouvelle page de coopération et d'amitié entre les deux États. Lors de cette visite, il signe un accord confidentiel portant sur l'engagement de dépolluer un ancien site d'essai d'armes chimiques, c'est-à-dire le site de B2 Namous. Cet accord secret montre qu'une coopération est donc possible sur un sujet extrêmement sensible entre ces deux États. Toutefois, le caractère secret de l'accord pose un problème pour assurer le suivi de cette dépollution, ainsi que l'information auprès des populations civiles résidant dans cette zone. À ce jour, il est seulement possible d'affirmer que c'est le centre d'études du Bouchet, un établissement de la Direction Générale pour l'Armement, DGA, spécialisé sur les risques chimiques et bactériologiques, qui a la charge de cette dépollution. Nous pouvons affirmer que rien n'a été réalisé au cours des années 2013 et 2014. En effet, selon un document interne daté du 20 mars 2013 du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, et de la DGA, il est indiqué que le 23 janvier 2013, la CGT s'était exprimée contre l'envoi de 10 personnels de la DGA en Algérie à cause du risque terroriste. Un an plus tard, le 4 décembre 2014, selon un document du comité technique du réseau, il est indiqué cette fois que le CHSCT a obtenu l'abandon de l'envoi civil DGATT Bourges et DGAMNRBC site de Vers-le-Petit en mission sur le site B2 Nabou en Algérie. Problème de pollution chimique pyrotechnique suite aux essais nucléaires des années 60. Cette mission a-t-elle depuis été réalisée? Rien ne permet de l'affirmer. Donc, avant d'aborder les recommandations, chers auditeurs, j'enchaîne avec les recommandations. Ce rapport souligne que les zones du Sahara, Reagan et Innecker, qui ont servi pour la France de terrain d'expérimentation pour 17 explosions nucléaires, ont laissé des traces dans la dangerosité pour les populations et comme pour la faune et la flore, est loin d'être négligeable. Les déchets non radioactifs ou issus des essais nucléaires, sable vitrifié, roche et lave contaminées, ainsi que les outils et autres engins potentiellement radioactifs laissés par les autorités politiques et militaires françaises de l'époque, qui les ont simplement enfouis dans les sables, doivent faire l'objet d'un travail approfondi de repérage et de récupération sur le terrain afin d'assurer la sécurité sanitaire des populations et de créer un environnement plus sain. Les obstacles à surmonter pour mettre fin à plus de 60 ans de secrets et de tabous entre la France et l'Algérie sont nombreux. Mais il est certain que si les autorités algériennes et françaises faisaient un pas vers la résolution de ce problème humanitaire, cela serait une preuve de la mise en œuvre de la première phase de la déclaration d'Alger. La France et l'Algérie sont déterminées à ouvrir un nouveau chapitre de leur relation 50 ans après l'indépendance de l'Algérie. Concernant la France, la loi du 15 juillet 2008 renforce très fortement le secret sur les archives liées au nucléaire. Comme l'énonce son article 17, ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toute autre arme ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue. Cependant, il importe que l'interprétation de cette loi aille dans le sens de son but premier, qui est de lutter contre la prolifération nucléaire. En effet, l'accès à certaines archives, les cartes permettant de localiser les déchets enfouis, en particulier, permettrait de renforcer la sécurité. Les recommandations proposées ne sont pas exhaustives et d'autres pourraient être ajoutées. Mesures de dialogue entre les deux États pour améliorer la situation humanitaire. Dans le cadre des sessions du CIHN, les deux gouvernements doivent mettre en place le dialogue spécifique annoncé en 2017 en s'appuyant sur les travaux du groupe de travail mixte sur l'indemnisation des victimes algériennes des essais nucléaires français au Sahara ou leur ayant droit. Comme le recommande le CIVAN, rapport de 2018, il est nécessaire que l'État français améliore pour les populations algériennes l'accès aux archives médicales détenues par le service des archives médicales hospitalières des armées. En vue d'accélérer le processus d'indemnisation des populations algériennes impactées par les essais nucléaires, il est recommandé que les informations sur le processus d'indemnisation soient rendues disponible en langue arabe et accessible aux personnes concernées sur le site internet du CIVEN. De même, des missions du CIVEN, comme elle en a conduite à plusieurs reprises en Polynésie, devraient être effectuées dans les zones concernées pour faciliter la constitution des dossiers de demande d'indemnisation. Il serait également indispensable de modifier le décret délimitant les zones affectées au Sahara afin de les élargir, comme cela a été fait pour la Polynésie. Il est important que les acteurs civils et militaires français et les populations algériennes inscrivent leurs témoignages dans une mémoire collective pour les générations futures. La création de cette mémoire commune pourrait être diligentée par des associations des deux États avec l'aide d'universitaires de ces États. Toutes les mesures et actions réalisées doivent l'être dans les langues officielles de la France et de l'Algérie. Mesures concernant les déchets nucléaires. La France doit remettre aux autorités algériennes la liste complète des emplacements où ont été enfouis des déchets contaminés, ainsi que pour chacun d'eux, la localisation précise, latitude et longitude, un descriptif de ce matériel, de même que la nature et l'épaisseur des matériaux de recouvrement utilisés. Les données relatives aux zones contaminées par des scories et laves traitées par simple recouvrement, sable, revêtement d'asphalte, couche de goudron, etc., doivent être publiées. La France doit remettre à l'Algérie les plans des installations souterraines du CEA sous la base militaire de Reggan Plateau, ainsi que les plans des différentes galeries creusées dans la montagne du Tan Afela. Mesures de protection sanitaire. Les autorités algériennes doivent mieux communiquer l'interdiction d'accès à ces zones par le biais de mesures simples, renforcement des clôtures, installation de nombreux panneaux d'information sur les sites en langue arabe et française, affichage d'informations dans les mairies et services de santé des villes et villages de ces zones-là. Mesures auprès des populations. Réalisation d'une étude indépendante sur les enfants et les petits-enfants afin de voir s'il existe un risque transgénérationnel. Une étude similaire a été réalisée pour la Polynésie française par le docteur Christian Sueur, psychiatre et praticien hospitalier. Réalisation d'une enquête de détection auprès de la population sur du matériel contaminé actuellement utilisé. Mise en place de mesures sanitaires à destination en premier lieu des habitants du village de Mertoutec, puis des autres populations locales. Information et sensibilisation des populations dans les écoles auprès des mouvements associatifs sur les risques radiologiques encourus. Réhabilitation et protection de l'environnement. Malgré l'impossibilité de revenir à un état pleinement naturel, un premier processus d'évaluation des possibilités de réhabilitation environnementale des sites d'essais nucléaires doit être mené et un suivi régulier des zones contaminées avec la participation de scientifiques indépendants doit être assuré. Les zones les plus contaminées, principalement la coulée de lave située sur le flanc du Tan Afela, doivent être nettoyées ou, à tout le moins, couvertes pour limiter l'éparpillement des particules radioactives par le vent et les pluies. Un suivi régulier, annuel, devra également être mis en place. Utilisation de nouvelles technologies. Les autorités devraient avoir recours à de nouvelles technologies pour permettre d'améliorer la sécurité des populations. 1. Utilisation de drones équipés d'un radar de pénétration des sols et d'un rayon de détecteur gamma pour détecter les déchets enfouis. 2. Utilisation d'images satellites pour assurer une surveillance et permettre une comparaison dans le temps des zones d'essai. Voilà, fin de l'article. Voilà ce qu'il faudrait faire.
Espérons que notre macaroni de l'Élysée fasse quelque chose. Mais j'y compte pas trop.
On sait qu'il a fait un rapprochement. Ça a été dit par la presse. Mais a-t-il abordé ça? C'était pas spécialement spécifié. Donc, boule de gomme. Mystère et boule de gomme.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès?
pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couverts de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Eh oui, on se demande pourquoi ils ont tué Jaurès. Cette chanson est tirée du dernier album que Jacques Brel a enregistré avant de mourir à l'âge de 50 ans d'un cancer de la gorge. C'est très très dur. Bon, je vais vous lire un article que Suzanne m'a envoyé qui parle de la police du futur. Voilà. Robots autonomes, officiers connectés, reconnaissance génomique, l'innovation dans les équipements et moyens mis en service de la police ne semble pas connaître de limites. État et entreprises privées avancent main dans la main, développant un arsenal sécuritaire hyper technologique dans le cadre d'un marché mondialisé en forte croissance. Ces nouveaux dispositifs, directement calqués sur le matériel militaire, brillent d'ailleurs davantage par les bénéfices qu'ils permettent d'engranger que par leur efficacité réelle et leur infaillibilité technique. Ils sont toutefois rendus acceptables, voire désirables, aux yeux des populations par le biais d'une novlangue publicitaire et d'un marketing particulièrement soigné. La police du futur ouvre des perspectives orwelliennes. Il ne s'agit pas seulement d'optimiser les équipements et les méthodes des forces de l'ordre, mais bien de poser les jalons d'une véritable panoptique policier qui a pour objectif d'aboutir à l'autocontrôle des populations. Appareil d'État chargé de maintenir l'ordre social, la police n'est pas un corps homogène. En son sein, s'affrontent et collaborent des fractions politiques, économiques et idéologiques. À la fois machine répressive et productive de subjectivité, elle quadrille la vie quotidienne tout en participant à la fabriquer. Depuis que le contrôle est devenu un véritable marché en cours du XXe siècle, des institutions et des industries collaborent en permanence en vue de produire ce qu'elles appellent la police du futur, problématique centrale pour la reproduction des États. C'est un mythe politique et un slogan publicitaire qui vante toutes sortes de produits, des armes et des technologies, jusqu'aux doctrines et schémas de pensée, en passant par les équipements et les formations pratiques. Parmi la masse de ces innovations, on trouve beaucoup de bullshit. De nombreux dispositifs ne sont jamais adoptés parce qu'ils ne peuvent s'intégrer à l'arsenal déjà existant ou ne remplissent pas les objectifs attendus. La plupart doivent être profondément transformés une fois expérimentés par les institutions. En analysant le cas français à travers les grandes tendances internationales, on peut décrire ce qui est en cours de restructuration et d'expérimentation, ce qui est en phase de recherche et de développement, et ce qui n'existe que dans l'ordre des idées et de la fiction. De quoi la police du futur est-elle le nom ? Comme l'armée, la police pense et est pensée par l'État en collaboration avec les industriels. L'actuel ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, saluait ainsi, à l'occasion de l'inauguration du Salon mondial Millipol, consacré à la sécurité intérieure des États, la capacité d'innovation et la croissance extraordinaire des industries sécuritaires en novembre 2017. Avec plus de 2000 exposants et 30 000 visiteurs, 30 000 abrutis, le succès de ce salon a montré que le marché global se porte mieux que jamais. L'État souhaite d'ailleurs doubler le chiffre d'affaires du secteur à l'horizon 2025, dans un an, s'attribuant un rôle essentiel pour impulser, pour susciter, pour accompagner la montée en gamme de tous les acteurs. La conception et l'orientation des polices du futur sont élaborées par un réseau de forges idéologiques mêlant intérêts étatiques et privés. L'Institut national des hautes études de sécurité et de la justice, le INHESJ, constitue un laboratoire de production de nouveaux savoirs sécuritaires. Créé en 1989, il réunit des cadres français et étrangers issus de tous les secteurs publics et privés de sécurité afin de produire des rapports utilisables par l'État et l'entreprise. Depuis 2012, le Conseil national des activités privées et de sécurité, le CNAPS, favorise le développement des nouvelles activités de sécurité en délivrant les autorisations aux entreprises. Le comité de filière industrielle et de sécurité, le COFIS, est pour sa part chargé depuis 2013 d'impulser les échanges entre public et privé. L'État s'est aussi doté en janvier 2014, d'un service de l'achat des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure, le SALSI, qui constitue l'interlocuteur unique des fournisseurs sur près de 600 marchés de modernisation, avec pour objectif la nationalisation logistique et l'optimisation des achats sur le modèle des méthodes japonaises. Tiens. Depuis janvier 2017, un délégué ministériel aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces, le DMISC, est chargé de consolider la croissance de la filière de sécurité en termes d'exportation et d'emploi, en faisant travailler ensemble les grands groupes des ETI, des PME, des start-up, des laboratoires de recherche universitaire, des pôles de compétitivité. La transformation policière est moins orientée par une doctrine univoque que par le cadre doctrinale polarisée à la fois par la recherche de puissance et de stabilité au service de l'État et par la croissance de la rentabilité des entreprises nationales. Un supermarché mondial. Revendiquant un taux de croissance annuel de près de 7%, le marché international de sécurité est rythmé et propulsé par des séries de conférences et de salons internationaux qui mettent en scène les acteurs et leurs produits. Les États y sont omniprésents. Le salon Millipol est emblématique de la marchandisation sécuritaire. Organisé à Paris depuis 1984, en partenariat avec les forces de l'ordre françaises et le ministère de l'économie, il est la propriété d'un groupement de grandes entreprises de défense et de sécurité dirigé par un préfet. Fin novembre 2017, le salon parisien a accueilli plusieurs dizaines de milliers de visiteurs venus de 151 pays et près de 1000 exposants. L'événement réunit militaires, policiers nationaux et municipaux, gendarmes, agents de sécurité et combattants privés, industriels, hommes d'État et politiciens de tous bords. Donc, on voit large. Ingénieurs ainsi que journalistes et chercheurs. C'est un lieu de rencontre privilégié pour repérer les nouvelles tendances, signer des contrats, mais aussi présenter des prototypes aux utilisateurs finaux. Les entreprises recueillent ainsi des idées et des besoins et en parallèle tentent de créer à la demande en suscitant les désirs de dotation en nouveaux matériels. Millipore sert ainsi de vitrine, de laboratoire et d'accélérateur de l'innovation policière dans des domaines allant jusqu'à la gestion des risques, à la police technique et scientifique, du maintien de l'ordre, à la lutte contre les trafics organisés, de la sécurité urbaine, à l'antiterrorisme. Ce supermarché des polices du futur assume sa prétention à cibler toutes les dimensions de la vie sociale individuelle, des plus globales aux plus intimes, afin d'assurer la sécurité des citoyens. Il masque par la même occasion les impacts réels des usages de ces marchandises sur des conditions de vie des peuples. Une bureaucratie de marché. À l'initiative d'États ou d'entreprises, les polices du futur sont de moins en moins fabriquées par des industries strictement publiques. Des géants industriels mixtes et des firmes complètement privées prennent le relais. Dans l'objectif de collaborer avec les États, les industries privées et mixtes mettent en œuvre des stratégies de recherche et développement multiples. Selon un schéma classique et officiel et direct, des up-bottom, c'est-à-dire de haut en bas, elles répondent aux appels d'offres de commanditaires institutionnels, mais la plupart utilisent parallèlement des schémas indirects, informels ou officieux, dits des bottom-up, de bas vers le haut, de façon à profiter des contacts réguliers avec les utilisateurs finaux. Ces deux logiques sont poreuses et chaque firme tente de les conjuguer en vue d'aménager des contacts réguliers avec à chaque échelon. Si on rate un maillon de la chaîne, on risque d'être à côté de la plaque, assure un communicant de Rivolier, distributeur de matériel de défense et de sécurité. Le ministère de l'Intérieur est le commanditaire de nouveaux casques de police développés par l'entreprise Cumu France, mais la firme a appris à rechercher des besoins spécifiques qui viennent de l'utilisation et remontent via les filières syndicales, soit hiérarchiques, afin de transformer les désirs des agents de police en stratégie d'acquisition. Le groupe M2M Factory, avec un Y, spécialisé dans la vidéosurveillance, collabore quotidiennement avec un réseau d'agents de services de renseignement, dont certains participent sans doute comme conseillers à l'entreprise elle-même. C'est des choses qui se font, mais on n'en parle pas trop. Nous, le contact avec l'utilisateur se fait plutôt sur le terrain, parce qu'il y a des choses qui se disent sur le terrain, mais et pas au salon. Précise le dirigeant qui reconnaît le procédé est assez informel. Cette stratégie s'articule à l'approche transversale par les salons qui permettent aussi de voir les autres industriels, de voir les nouveautés des partenaires pour les intégrer dans les systèmes. La firme Vernet-Caron, qui fournit notamment les flashballs de la police nationale française, se sert du salon Millipol comme laboratoire d'usage. Elle a engagé l'agence Novam, spécialisée en innovation et développement de produits, de services et services, qui invite les visiteurs à prendre en main les nouveaux prototypes. On pose un certain nombre de questions aux utilisateurs pour savoir ce qui leur manquerait, précisent les designers produits. L'idée est de projeter les gens dans l'arme idéale. Bonjour. Les géants industriels profitent de leurs partenariats et clients historiques, comme Thales, travaillent main dans la main avec l'État, explique un responsable commercial Nexter, groupe industriel militaire détenu en partie par l'État français, développe le Titus, un véhicule blindé à la base destiné aux forces armées classiques, et qu'il a décliné dans une version policière afin de le vendre au ministère de l'Intérieur. Dans ce but, il le fait évaluer par les unités spéciales du RAID, groupe d'élite de la police française. Notre intérêt, c'est de vendre au RAID et pas seulement au RAID. Et eux nous apportent l'expérience dont on manque, rapporte un communicant. Le JICAT, groupement des industries françaises et de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre, a mis en place un système de rétro-planning de recherche pour contourner le principe de l'achat sur l'étagère. Un agenda de rencontre, des groupes de travail ad hoc qui sont créés sur des thématiques, entre parenthèses, policiers du futur, big data, cybersécurité et j'en passe, où les gens se rencontrent. Ces groupes fonctionnent en amont des décideurs institutionnels et réunissent des opérateurs de terrain, des industriels, des chercheurs, des universitaires. On mouline tout ça et quand on a une solution, ça part vers les niveaux hiérarchiques qui décident oui ou non, explique François Matins, le directeur de la communication des affaires publiques. Lors des fictions néolibérales sur la libre concurrence du marché, les géants industriels semi-publics illustrent la consanguinité de l'État et des grandes entreprises françaises de défense et de sécurité. Structurés par des rapports de force, de privilèges et de favoritisme, la fabrication des polices du futur se concentre sur la productivité de nouveaux désirs de contrôle. Une petite pause.
Vous qui méprisez la jeunesse, vous qui ne savez l'écouter, vous qui ne voyez que les fesses des filles et passez à côté de ce qu'elles ont dans la cervelle, sous leur chevelure mal peignée, se foutant de paraître belle à votre propre désignée. Alto con. Vous qui qualifiez de loubards tous les taggers et les rappeurs, et pire encore quand ils sont noirs, vous qui souvent en avez peur sans que jamais dans votre tête vous n'entachiez d'un moindre doute cette certitude simplette d'avoir choisi la bonne route. Mort au con. Vous auriez pu imaginer que s'ils se mettent à l'écart de votre monde suranné en vous qualifiant de ringard, c'est peut-être de votre faute. N'en avez-vous la moindre idée? Et votre morale, s'il la saute, qu'avez-vous fait pour les aider? Pauvres cons. Vous qui vous mettez des œillères pour ne pas voir les sans-logis, et dans des oreilles des pierres pour ne pas entendre les cris des torturés, des isolés, des victimes de toutes les guerres, enfants tués, femmes violées, familles expulsées de leur terre. Honte aux cons. Vous qui mettez dans le même sac drogués, homos, gitans, poètes, et appréhendez leurs attaques quand ils redressent un peu la tête. Vous qui vous donnez bonne conscience en pratiquant dans vos églises le culte de l'intolérance sans voir les couteaux qui s'aiguisent. Mort aux cons. Vous qui méprisez la sagesse de ceux qui possèdent un passé, ceux qui prolongent leur jeunesse sans jamais vouloir l'oublier, vous qui croyez qu'après 30 ans c'en est fini de la gamberge, qui ignorez qu'à 60 ans on peut être plus jeune qu'à 20 berges. Pauvre con! Vous ne mettez pas en question ce piètre confort imbécile d'un petit bonheur sous gestion d'une imagination stérile. Vous êtes des clones de milliers de pauvres cons sur la planète pour qui seuls comptent les billets qu'ils entassent dans leur cachette. Honte aux cons! Halte aux cons!
Michel Valette, pour conclure ce, la première, une première partie de, du texte que je vous ai lu, j'ai préféré mettre la pause maintenant, parce que, avec ce que je vous ai déjà lu, c'est vraiment too much. Et j'ai fait je suis un peu mélangé la langue dans la bouche. 2023, j'ai dit que c'était dans un an, 2025 dans un an, mais c'est dans deux ans. Plutôt un an et demi, vous voyez.
Oui, oui, c'est vrai.
Le désastre est en cours, hein, de toute façon. Quand on voit toutes les manifestations qu'il y a actuellement, avec les nouveaux outils qu'ils envoient, voilà. Donc, ça, pour tu vas nous lire une page de Bertrand de Jouvenel.
Oui. Et un moment de réflexion, voilà. Parce que si on veut changer. Autant comprendre pour pouvoir changer, améliorer. Et c'était bien la perspective du travail de Bertrand Jouvenel. Alors, le Minotaure masqué. Du XIIe au XVIIIe siècle, la puissance publique n'a point cessé de s'accroître. Le phénomène était compris de tous les témoins, évoqué des protestations sans cesse renouvelées, des réactions violentes. Depuis lors, elle a continué à grandir à un rythme accéléré, étendant la guerre à mesure qu'elle s'étendait elle-même. Et nous ne le comprenons plus, nous ne protestons plus, nous ne réagissons plus. Cette passivité toute nouvelle, le pouvoir la doit à la brume dont il s'entoure. Autrefois, il était visible, manifesté dans la personne du roi qui s'avouait un maître et à qui l'on connaissait des passions. À présent, masqué par son anonymat, il prétend n'avoir point d'existence propre, n'être que l'instrument impersonnel et sans passion de la volonté générale. Karl Marx disait dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, « Par une fiction, d'autres disent une abstraction, on affirme que la volonté générale, qui en réalité émane des individus investis du pouvoir politique, émane d'un être collectif, la nation, dont les gouvernants ne seraient que les organes. Ceux-ci, d'ailleurs, se sont de tout temps attachés à faire pénétrer cette idée dans l'esprit des peuples. Ils ont compris qu'il y avait là un moyen efficace de faire accepter leur pouvoir ou leur tyrannie. » Ah non, excusez-moi, ce n'est pas Karl Marx, mais Duguay, dans « L'État, le droit objectif et la loi positive », édité à Paris en 1901. Aujourd'hui, comme toujours, le pouvoir est exercé par un ensemble d'hommes qui disposent de la chambre des machines. Cet ensemble constitue ce qu'on appelle le pouvoir, et son rapport avec les hommes est un rapport de commandement. Ce qu'il y a de changé, c'est qu'on a donné au peuple des moyens commodes de changer les principaux participants au pouvoir.
En un certain sens, le pouvoir s'en trouve affaibli, puisque, entre les volontés qui prétendent à diriger la vie sociale, l'électorat peut, à certaines époques, faire son choix. Mais, où, en ouvrant à toutes les ambitions la perspective du pouvoir, ce régime facilite beaucoup son extension. Car sous l'Ancien Régime, les esprits capables d'exercer une influence, sachant qu'ils n'auraient jamais part au pouvoir, étaient prompts à dénoncer son moindre empiétement. Tandis qu'à présent, tous sont prétendants, aucun n'a d'intérêt à diminuer une position à laquelle il espère un jour accéder, à paralyser une machine dont il pense user à son tour. Benjamin Constant disait « Les hommes de parti, quelque purs que leurs intentions puissent être, répugnent toujours à limiter la souveraineté. Ils se regardent comme ses héritiers et ménagent, même dans la main de leurs ennemis, leur propriété future. » Extrait de Cours de politique constitutionnelle, édition Laboulé, Paris 1872. De là vient qu'on trouve dans les cercles politiques de la société moderne une vaste complicité en faveur de l'extension du pouvoir. Les socialistes offrent l'exemple le plus frappant. La doctrine leur enseigne, comme dit Engels dans sa préface de 1891 à la guerre civile de Marx, l'État n'est pas autre chose qu'une machine d'oppression d'une classe par une autre, et cela tout autant dans une république démocratique que dans une monarchie. À travers les innombrables révolutions dont l'Europe a été le théâtre depuis la chute de la féodalité, se développe, se perfectionne et se renforce cet appareil bureaucratique et militaire. Lénine disait dans « L'État et la révolution » édition L'Humanité 1925, page 44, « Toutes les révolutions antérieures n'ont fait que perfectionner la machine gouvernementale alors qu'il faut l'abattre, la briser. » Cependant, avec quelle faveur ne voit-il pas grandir cette machine d'oppression qu'il pense bien moins à briser qu'à mettre entre leurs mains ? Benjamin Constant disait encore « Il se défie de telle ou telle espèce de gouvernement, de telle ou telle classe de gouvernants, mais permettez-leur d'organiser à leur manière l'autorité, souffrez qu'ils la confient à des mandataires de leur choix, ils croiront ne pouvoir assez l'étendre. » En s'élevant avec raison contre la guerre, il ne voit même pas que son amplification monstrueuse est liée à l'amplification du pouvoir. C'est en vain que Proudhon a toute sa vie dénoncé la diversion de la démocratie vers une simple compétition pour l'impérium. Cette compétition a donné ses fruits nécessaires, un pouvoir à la fois étendu et faible. Mais il n'est pas naturel au pouvoir d'être faible. Il se trouve des circonstances qui font désirer au peuple lui-même de trouver à sa tête une volonté vigoureuse. Un homme, une équipe peuvent alors s'emparer du pouvoir, employer ses leviers sans timidité. Il manifeste son accablante énormité. On croit qu'ils en sont les auteurs, mais non, seulement les usagers abusifs. Alors, le Minotaure à visage découvert. La chambre des machines était constituée. La chambre des machines était constituée, ils ne font que s'en servir. Le géant était debout, ils ne font que lui prêter une âme terrible. Les serres et les griffes qu'il fait alors sentir ont poussé durant la session démocratique. Il mobilise la population, mais c'est en période démocratique qu'a été posé le principe de l'obligation militaire. Il capte les richesses, mais doit à la démocratie l'appareil fiscal et inquisitorial dont il use. Le plébiscite ne conférerait aucune légitimité au tyran si la volonté générale n'avait été proclamée source suffisante de l'autorité. L'instrument de consolidation qu'est le parti est issu de la compétition pour le pouvoir. La mise au pas des esprits dès l'enfance a été préparée par le monopole, plus ou moins complet, de l'enseignement. L'appropriation par l'État des moyens de production est préparée dans l'opinion. La puissance policière même, qui est l'attribut le plus insupportable de la tyrannie, a grandi à l'ombre de la démocratie. Citation de A. Ullmann. La police, quatrième pouvoir, Paris 1935. C'est à peine si l'Ancien Régime l'a connu. Dans une société hiérarchisée, en effet, le policier craint toujours de s'attaquer à des gens de condition. De là, chez lui, une crainte permanente de se mettre dans un mauvais cas, qui l'humilie et le paralyse. Il faut une société nivelée pour que sa fonction le mette au-dessus de tous et ce gonflement moral aide au gonflement de l'institution. La démocratie, telle que nous l'avons pratiquée, centralisatrice, réglementeuse et absolutiste, apparaît donc comme la période d'incubation de la tyrannie. C'est à la faveur de l'innocence apparente qu'elle a prêté au pouvoir, qu'il a pris l'amplitude dont un despotisme et une guerre sans précédent en Europe nous ont donné la mesure. Qu'on suppose Hitler succédant immédiatement à Marie-Thérèse, croit-on qu'il aurait pu forger tant d'outils modernes de tyrannie ? Ne fallait-il pas qu'il les trouvât préparés ? À mesure que nos réflexions prennent cette direction, nous apprécions mieux le problème qui se pose à notre Occident. Nous ne pouvons plus, hélas, croire qu'en brisant Hitler et son régime, nous frappons le mal à sa source. Dans le même temps, nous formons des plans pour l'après-guerre qui rendrait l'État responsable de tous les sorts individuels et qui, nécessairement, mettrait aux mains du pouvoir des moyens adéquats à l'immensité de sa tâche. Comment ne pas sentir qu'un État qui lierait à lui les hommes par tous les liens des besoins et des sentiments serait d'autant plus capable de les vouer un jour au destin guerrier. Plus grandes les attributions du pouvoir, plus grands aussi ses moyens matériels pour la guerre. Plus manifestes les services par lui rendus, plus prompte l'obéissance à son appel. Et qui oserait garantir que cet immense appareil d'État ne retombera jamais aux mains d'un gourmand d'empire ? La volonté de puissance n'est-elle pas dans la nature humaine ? Et les insignes vertus de commandement nécessaires au maniement d'une machine de plus en plus lourde n'ont-elles pas souvent pour compagnon l'esprit de conquête ? Le Minotaure est partout. Nous venons de le voir, et l'histoire entière en témoigne, qu'un seul des États tout-puissants de l'avenir trouve un chef qui convertisse les pouvoirs assumés pour le bien social en moyen de guerre pour que tous les autres soient forcés à la même conduite. Car plus complète la prise étatique sur les ressources nationales, plus haute, plus soudaine, plus irrésistible la vague qui peut déferler d'une communauté armée sur une communauté pacifique. Nous risquons donc, alors que nous abandonnons plus de nous-mêmes à l'État, quelque rassurant que soit son visage d'aujourd'hui, de nourrir la guerre à venir, de faire qu'elle soit à celle-ci comme celle-ci aux guerres de la Révolution. Je ne prétends pas ici m'opposer à la croissance du pouvoir, au gonflement de l'État. Je sais de tout ce que les hommes en attendent et combien leur confiance dans le pouvoir qui viendra est échauffée de toutes les souffrances infligées par le pouvoir qui disparaît. Ils désirent passionnément une sécurité sociale. Les dirigeants ou ceux qui aspirent à l'être ne doutent point que la science ne les mette en mesure de former les esprits et les corps, d'adapter chaque individu à une alvéole sociale faite pour lui et d'assurer par l'interdépendance des services le bonheur de tous. C'est une tentative qui ne manque pas de grandeur, c'est le couronnement de l'histoire d'Occident. Si l'on pense qu'il y a peut-être ici trop de confiance et là trop de présomption, que les applications prématurées d'une science incertaine risquent d'être d'une cruauté presque inconnue des barbares, témoin l'expérience raciste, que les erreurs d'aiguillage d'immenses convois humains seront nécessairement catastrophiques, que la disponibilité des masses, enfin, et l'autorité des chefs nous promettent des conflits dont celui-ci n'est que le présage, faut-il jouer les Jérémies ? Je ne l'ai pas cru. Et mon dessein se borne à rechercher les causes et le mode de croissance du pouvoir dans la société. C'était la fin de la première partie de la présentation du Minotaure, de Bertrand de Jouvenel. La suite sera pour une prochaine fois.
Ok. Merci Elsa pour toutes ces informations. Oui. Et nous allons arrêter l'émission maintenant et mettre une petite plage musicale pour en attendant que l'émission jazzive commence. Voilà.
Entendu. Et...
jeudi
du mois de juillet. Bien sûr.
29 le... avec Suzanne.
Oui, voilà. Entendu.
Allez, au revoir.
Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parole, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.
Tu m'arraches mon armure dans un geste impossible.